dans nos Bibles. Mais dans ce matin, juste un petit sentiment, j'aimerais partager. Vous m'avez stressé, frères et sœurs, parce que au moment des partages, j'avais l'impression que, oh là là, il y avait comme une inertie. Les prières, alors, venez préparer dans le culte et puis osez ouvrir la bouche. Osez, pas tout le monde peut partager chaque dimanche, mais sentez-vous libre de partager. On a, depuis quelques années, on a varié tellement le culte, on a essayé de, là, d'amener cet élément de partage, Pierre, pour que le plus grand nombre s'exprime et la liberté. Prenez ce privilège. Hein. Alors, mais osez, il y a des timides parmi nous, voilà, il y a toujours des timides, mais le Seigneur veut nous bénir et nous enrichir des partages les uns les autres basés sur la parole de Dieu. Alors, je vous invite, frères bien-aimés et sœurs bien-aimées, à tourner en Éphésiens, chapitre 2. Nous continuons les messages par exposition de l'Épître aux Éphésiens. Et nous allons lire du verset 1 au verset 13 et essentiellement regarder verset 1 à 10. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Il a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous autrefois, païens à la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Que le Seigneur bénisse abondamment sa parole. Alors, voilà, il suffit que j'aille dans le bon sens. Nous allons regarder ensemble ce matin, d'abord faire un rappel des passages que nous avons déjà regardés en Éphésiens, sachant que dans les premiers versets, Paul est en train de nous amener à une cime, à une montagne de bénédictions spirituelles et nous place dans les lieux célestes en Christ, nous fait réaliser ce que nous avons en Christ, ce que Dieu a fait pour nous. Du verset 4 au verset 14, il nous a élus, il nous a prédestinés, il nous a rachetés, il nous a adoptés, il nous a fait héritier avec lui et il nous a scellés du Saint-Esprit. Mais comme nous avons des fois des difficultés à comprendre ce que nous avons en Christ, et l'expression clé était en lui, en Christ, qui se répète souvent d'ailleurs dans l'Épître aux Éphésiens, on a vu ensemble du verset 15 au verset 23 la prière de l'apôtre Paul qui est en fait qu'une seule et même phrase dans le grec, dans l'original. Ici, l'apôtre Paul est en train de prier que Dieu illumine les yeux de notre cœur et que nous puissions recevoir cet esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance pour justement réaliser ce que nous possédons et vivre ce que nous possédons en Christ. Mais comme nous pourrions peut-être avoir une tendance d'orgueil spirituel, alors Paul est en train de nous rappeler, dans les premiers versets au chapitre 2, ce que nous étions avant de nous convertir, avant d'être sauvés. En fait, dans ce texte ici, je ne sais pas si vous l'avez lu ou assez lu attentivement avec moi, dans le peu de temps qu'on a de lire évidemment ce texte, chacun ce matin, mais il y a une expression qui revient plusieurs fois, c'est un autrefois. Autrefois, selon le train de ce monde. autrefois selon les convoitises de notre chair, autrefois païen à la chair. Et puis il y a une expression en contraste, un maintenant. En fait, il y a un autrefois pour le croyant et un maintenant. Et la différence, c'est l'intervention de Dieu. On va regarder ça en détail ensemble. Il y a un autrefois et il y a un maintenant. Est-ce qu'il y a vraiment eu dans votre vie, mon ami, un autrefois, puis tu peux dire maintenant qu'il y a un maintenant? Parce que s'il n'y a pas un autrefois et un maintenant, c'est que c'est encore un autrefois, et tel qu'est décrit dans ce texte ici, c'est une vie finalement d'esclave. Mais Dieu est intervenu, et nous allons regarder cela ensemble. Et après nous être posé la question s'il y a eu un autrefois et un maintenant dans notre vie, nous allons regarder le plan du texte. Alors, dans ce texte, on peut voir qu'il y a la nécessité du salut, il y a l'origine du salut, il y a les mots clés du salut que nous allons regarder ensemble, le moyen du salut, le double but du salut et la preuve du salut. Au moins, je suis sûr ce matin que tout le monde a sous les yeux le plan de l'exposé que je vais faire à l'instant. Alors, c'est une autre technique un petit peu avec le PowerPoint, mais on va s'adapter. Le salut par la foi. Vous avez compris ici que dans ce texte, le sujet, c'est le salut. Tout d'abord, on va réfléchir sur la nécessité du salut. Et on voit dans le texte ici qu'une des premières raisons que le pécheur a besoin d'être sauvé, c'est à cause de sa mort spirituelle. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Un mort, c'est quelqu'un qui ne peut plus avoir aucune réaction, absolument aucune. La mort spirituelle chez l'être humain, c'est une séparation d'avec Dieu, une séparation spirituelle qui fait qu'il n'a même par lui-même aucun élan naturel vers Dieu. Il est mort vis-à-vis des choses spirituelles. C'est ce que le texte nous dit. Être mort, c'est vrai, être mort. Et cela, c'est par nos offenses et nos péchés. C'est plus que par les actions qui est le reflet d'un état de pécheur qu'un état lui-même. Nous sommes vraiment dans un état d'être pécheurs. Et parce que nous sommes pécheurs, nous produisons des œuvres mauvaises qui sont des offenses et qui sont des péchés. Le mot péché, amartia, ça l'idée de rater la cible, de rater la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, la nature de Dieu et les désirs de Dieu dans la vie de l'homme. Parce que tout simplement, séparé d'avec Dieu, le mot mort, dans le grec, a l'idée d'être séparé. La mort physique, c'est la séparation de l'âme et du corps. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu de la vie spirituelle sur terre. Et la mort éternelle, c'est la séparation d'avec Dieu pour toujours. Donc le mot mort est très fort ici. Et c'est dans ce besoin que nous réalisons la nécessité d'être sauvés. Parce que la Bible dit, et on pourrait regarder beaucoup plus de textes parallèles, « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. » C'est la mort spirituelle, c'est la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu pour toujours, le péché étant la transgression de la loi de Dieu. Je crois que nous n'avons pas besoin d'être convaincus que nous sommes des pécheurs, parce que par nature, nous faisons des péchés, malgré nous-mêmes parfois, consciemment ou inconsciemment, nous sommes des pécheurs, nous ratons le but de la volonté de Dieu dans notre vie. C'est aussi à cause de notre marche rebelle. Nous sommes, la Bible dit ici, des fils de la rébellion. C'est donc que nous avons un père. Si nous sommes des fils de la rébellion, c'est donc qu'il y a un père qui est particulièrement rebelle, et on va le découvrir dans un instant, de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous sommes des êtres rebelles par nature. Nous n'aimons pas nous soumettre à la loi, nous n'aimons pas nous soumettre aux autres, et la rébellion est toujours synonyme de désobéissance. Les enfants n'aiment pas se soumettre à leurs parents, les épouses parfois n'aiment pas se soumettre à leurs maris, les maris n'aiment pas se soumettre à leur employeur, ce ne sont que des exemples, c'est toujours réciproque, n'est-ce pas? Mais c'est vrai dans les deux sens, mais par nature, nous sommes des êtres rebelles. Rebelles vis-à-vis de ceux qui nous entourent, même s'ils nous aiment, mais aussi rebelles vis-à-vis et surtout de Dieu. La rébellion que nous avons envers les autres est synonyme de la rébellion d'avec Dieu. Et c'est ce que nous sommes par nature. Alors, qui que nous soyons, à n'importe quel degré que nous soyons, nous sommes par nature capables de nous rebeller parce que nous sommes des rebelles. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle, n'est-ce pas? On l'accepte avec plus ou moins de grâce, mais nous sommes comme cela. Et ça se voit dans les guerres, ça se voit dans les chicanes de couple, ça se voit dans les divorces, ça se voit dans les conflits. Et là, la liste est longue. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est rebelle et a du mal à se soumettre à Dieu. La Bible dit quelque chose de terrible. « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Autrement dit, cela signifie que nous avons pour père le diable. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ici, l'idée, c'est que le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, est celui, quelque part, qui est le maître des créatures de Dieu. Il y a eu la chute par Adam et l'homme a perdu sa communion avec Dieu intime et est devenu un rebelle et dans un courant de ce monde, le train de ce monde, le principe de ce monde, le principe de l'esprit malin qui agit dans ce monde. Et sans le savoir, il est une marionnette que Satan dirige. Ce n'est pas étonnant que lorsque nous partageons l'Évangile, nous avons des réactions autour de nous. Ils vous ont haï, ils vous haïront comme ils m'ont haï, parce que justement, une fois que nous sommes sauvés, nous n'avons plus pour père le diable, et donc nous ne marchons plus selon le train de ce monde. Nous avons pour père Dieu lui-même. Amen. Et nous l'aimons de tout notre cœur, parce que c'est lui qui a transformé notre vie. Et pour cela, nous le glorifions. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus esclaves du diable. Nous avons pour maître Jésus-Christ, et nous l'adorons, et nous l'aimons de tout notre cœur. Nous avons besoin d'être sauvés parce que nous avons une vie de convoitise. Nous lisons ça au verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Des enfants de colère, parce que sous la colère de Dieu, certainement que les fils de la rébellion ont une colère dans leur cœur, mais dans le texte ici, c'est plutôt l'idée des enfants de colère, parce que sous la colère de Dieu, celui qui croit au Fils, à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils, ne verra point la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Dieu est en colère parce que justement il a donné un salut parfait que nous allons regarder ensemble et dont nous avons tellement besoin et que les hommes parfois refusent. Mais ici il est question des convoitises, il est question des volontés, il est question de nos pensées, tout ce qui fait finalement notre être. Et la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, parce que tout ce qui vient dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ceci est notre chair. Ce n'est pas une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais c'est ce que dit la Bible. Et en Romains, il est écrit, Romains 7, 5, excusez-moi, il faut que je me rapproche. Il est écrit, « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » En fait, l'apôtre Paul ici reconnaît que dans sa nature la plus profonde de son être, il ne fait pas le bien qu'il veut. Il désire faire le bien et même là, il voit que sa nature est un obstacle à faire le bien. Et la Bible rajoute en Galates, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, Bref, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, c'est ce que nous sommes. le portrait de Dieu décrit sur l'homme est sans équivoque, est irrévocablement un portrait négatif de quelqu'un, d'un être déchu, perdu. Quelle est l'origine du salut ? Dans ce tableau de l'homme perdu, de l'homme sans Dieu, sans espoir, il y a un « mais ». Il y a un « mais Dieu ». Et je pense ce matin que si vous êtes sauvés, vous pouvez remercier le Seigneur et venir le dimanche matin avec un esprit de louange, de reconnaissance pour celui qui vous a sauvés. Parce que vous étiez mort dans vos péchés, dans vos offenses. Un mort n'a aucune vie, ne peut engendrer aucune vie. Et si Dieu n'était pas intervenu, et dans sa miséricorde, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. Si Dieu n'avait pas ressuscité Lazare, Lazare serait demeuré mort. De même, si Dieu ne ressuscite pas une personne pour être sauvée, il reste mort dans ses péchés, séparé d'avec Dieu et en route pour l'enfer. Seulement, c'est la grâce de Dieu qui intervient pour que l'homme soit sauvé. C'est Dieu qui fait un pas vers l'homme. Dieu est descendu du ciel pour se faire homme. Quelqu'un a dit, Dieu s'est fait homme, tandis que l'homme a toujours tendance à se faire Dieu. Et c'est vrai, mais c'est l'orgueil qui pousse l'homme à vouloir se faire Dieu. Tandis que dans l'humilité et l'humiliation, Christ est incarné afin de revêtir la forme d'un simple homme et d'apprendre l'obéissance jusqu'à la mort de la croix, nous dit l'Épître aux Philippiens. Mais Dieu, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste d'un point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ce n'est pas que nous avons commencé à aimer Dieu, puis Dieu nous a trouvé tellement beau, tellement gentil, tellement intelligent. Ah, celui-là, il est vraiment bien, alors je vais le sauver. Ce n'est pas du tout ça. Qu'on soit un criminel, qu'on soit un proxénète, qu'on soit simplement un menteur, parce qu'on a péché une fois dans sa vie, la Bible dit qu'on est perdu. Certainement, il y a des degrés du péché chez le pécheur, par des actes plus ou moins criminels qu'il a pu commettre. Mais l'état du pécheur fait qu'il est séparé d'avec Dieu. Et dans cet état-là, c'est Dieu qui nous a aimés avant que nous l'aimions. Ne croyez pas que parce que nous avons fait des choses pour plaire à Dieu, que tout d'un coup, Dieu a été tellement touché. Il a dit, oh, celui-là, oui, il est bon, il est gentil, alors je vais le sauver. Ce n'est pas du tout ça. On est mort. Qui que nous soyons, dès notre naissance, la Bible dit qu'on a reçu la nature adamique et que donc on était mort, séparé d'avec Dieu. Mais Dieu est intervenu. Imaginez cela. Quelle grâce, frères et sœurs. Combien nous pouvons louer le Seigneur de ce « mais Dieu ». Est-ce qu'il y a eu vraiment un « mais » dans votre vie ? Mais Dieu. Un « mais » qui fait toute la différence, même encore aujourd'hui, car Dieu est celui qui peut intervenir et changer, transformer nos cœurs et nos vies. Nous allons regarder ensemble les mots-clés du salut qui se trouvent dans ce texte. Et les premières expressions que l'on trouve, c'est « rendu vivant avec Christ ». Pour qu'un mort passe à la vie, il faut qu'il y ait une résurrection. Il faut qu'il passe de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. On est mort spirituellement, c'est paradoxal, on est mort spirituellement, on est vivant physiquement. Notre âme est vivante aussi, dans le sens qu'elle a une conscience. Mais elle est morte, l'esprit est mort vis-à-vis de Dieu. Il y a une intelligence qui est vivante, il y a une volonté qui est vivante, il y a des émotions, il y a un cœur qui est vivant, il y a un corps qui est vivant, mais sur le plan spirituel, il y a une mort qui est une séparation d'avec Dieu. Et la conversion, c'est de passer de la mort à la vie. Je pense aussi à ce passage, en Actes chapitre 26, où quand Paul est converti, Dieu dit « Je t'envoie afin qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu, de la mort à la vie. » C'est Dieu qui fait une différence pour nous placer en Christ et nous rendre vivants. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Ça, maintenant, c'est notre défi pour chacun de nous. Nous considérer comme vivants. Et une fois qu'on réalise que nous sommes placés en Christ comme vivants, nous sommes des pierres vivantes, la Bible dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice saint et vivant. » On ne peut pas offrir à Dieu ce qui n'est pas vivant. Mais une fois qu'il nous a donné la vie, cette vie en nous nous pousse à donner nos cœurs au Seigneur Jésus-Christ. Et donc le fait de se considérer comme mort au péché et maintenant vivant pour Dieu nous permet de vivre en nouveauté de vie parce que consacré à Dieu, vivant pour Christ et en Christ. Un autre mot clé ici que Christ a fait pour nous, toujours les expressions en Christ, avec Christ, il nous a ressuscités ensemble. C'est merveilleux cela. De la même façon que Christ est ressuscité des morts, dans cette résurrection, il nous a placés, nous avons été ensevelis en sa mort pour être aussi ressuscités avec lui. Et par cette résurrection de Christ, il a pu nous ressusciter avec lui et nous donner la vie. Alors en Colossiens, il est écrit, il nous a ressuscités ensemble. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Pensez juste un instant, la même vie, la même puissance de Dieu qui a ressuscité Christ entre les morts est la même vie maintenant qui est dans votre vie, dans votre corps, qui est devenu le temple du Saint-Esprit. Que faisons-nous de cette puissance? L'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, a écrit l'Épître aux Éphésiens pour nous démontrer tout ce que nous avons en Christ. Alors maintenant, vivons ce que nous sommes, vivons ce que Dieu a déclaré que nous sommes. Christ est vivant en nous, il nous a ressuscités avec lui et nous sommes aussi, dit la Bible, assis dans les lieux célestes. Encore un mot-clé, assis avec Christ dans les lieux célestes. La Bible dit qu'il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ce n'est pas simplement une ou deux personnes d'entre nous, c'est l'ensemble des croyants qui maintenant sont assis dans les lieux célestes en Christ. Et la Bible dit en Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Vous avez besoin de quelque chose? Allez vers la source de la bénédiction, qui est Dieu lui-même. Dieu veut vous bénir richement, vous remplir de ses bénédictions, de sa présence, de sa paix, de sa joie, de son amour, de toute sa puissance. Parce que déjà, il nous a placés dans cette position, alors que notre condition rejoigne notre position. Tel est certainement notre défi de tous les jours, de demeurer en Christ. Mais nous sommes en Christ, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit, et nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Alors, Christ dans les cieux, nous avons tout pleinement avec lui, nous ne manquons de rien et nous glorifions le Seigneur Jésus. Un autre mot que l'on trouve un petit peu plus loin dans le texte, c'est sauvé, c'est par la grâce que vous êtes sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Dans l'Ancien Testament, je me souviens quand j'étais jeune converti, je découvrais le plan du salut et la doctrine du salut du Nouveau Testament, mais quand je regardais dans l'Ancien Testament, on trouvait souvent le mot salut, et les gens qui demandaient à être sauvés, je me suis dit, là, je suis confus, qu'est-ce que ça veut dire, être sauvé? Mais le mot sauvé, en fait, est synonyme d'être délivré. Donc quand les intercesseurs de l'Ancien Testament demandaient d'être sauvés, souvent, ils demandaient d'être délivrés, par exemple, de leur ennemi ou de circonstances adverses. Dans le Nouveau Testament, être sauvé, c'est avoir la vie éternelle. Mais c'est aussi être délivré de la puissance du péché, être délivré de la puissance du diable, être un jour délivré définitivement de la présence du diable et du péché, de nos corps, pour revêtir le corps spirituel que Dieu va nous donner à son retour, à l'enlèvement de l'Église, à la résurrection des morts. Tout ça, c'est inclus dans le salut. Et nous sommes sauvés, c'est dans le passé, il nous a donné la vie éternelle. Nous sommes en train d'être sauvés maintenant, dans le sens que nous sommes délivrés du péché et de la mort et de l'enfer. Et un jour, nous serons délivrés de ce corps mortel par un corps glorieux qui glorifiera le Seigneur Jésus-Christ dans l'éternité. C'est tout cela que veut dire être sauvé. Être sauvé, c'est évidemment en contraste avec être perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être perdu ? Rien. Il suffit juste de vivre. Parce que dans l'état de péché que nous sommes, de pécheurs, nous péchons. Et le péché est une entrave à la sainteté de Dieu, une transgression à la loi de Dieu. Et celui qui transgresse un seul commandement transgresse tous les commandements, nous dit la parole, et nous sommes perdus. Ce n'est pas qu'on est à moitié perdu, 10% perdu, 20% perdu. Ceux qui semblent pécher plus, 100% perdu, la Bible dit qu'on est perdu par nature. Et donc on a besoin d'être sauvé. Mais une fois qu'on est sauvé, c'est quelque chose qui demeure éternellement. C'est un acte dans le passé, ça s'appelle la nouvelle naissance. Et par la nouvelle naissance, nous sommes régénérés par le Saint-Esprit qui nous est scellé pour l'éternité comme un gage de notre héritage à venir. La Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » Être sauvé, c'est avoir la vie éternelle. Alors, ce matin, avez-vous la vie éternelle ? Êtes-vous sûr, si vous deviez rencontrer Dieu dans le ciel et mourir et se tenir dans sa présence, d'être sauvé, d'être en route, d'entrer dans le paradis de Dieu comme le brigand qui sur la croix a dit « Souviens-toi de moi lorsque tu iras dans ton règne » et Jésus-Christ lui a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Le moyen du salut du côté de Dieu, nous allons réfléchir un petit peu là-dessus, du côté de Dieu, c'est bien ça, il y a ces mots en Éphésiens 2:8 qui dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu ». La grâce, c'est un don immérité. Donc, à la limite, il n'aurait pas été écrit « c'est le don de Dieu », on aurait dû comprendre. Mais comme on a beaucoup de mal à comprendre ce qui est gratuit, par notre nature, on veut toujours essayer de se racheter, le texte inspiré dit que c'est une grâce, un don immérité, et que c'est le don de Dieu. C'est donc un cadeau. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut nous-mêmes acquérir ou acheter par nos efforts, par notre argent, par une vie morale ou même sainte ou religieuse. Ça vient de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Du côté de Dieu, le salut est une grâce. D'ailleurs, c'est confirmé en 1 Pierre 5:10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ. Si Dieu ne nous appelle pas au salut, nous ne pouvons pas être sauvés. C'est aussi un don, et on le retrouve ici en Romains 3:24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est gratuit. C'est incroyable cela. Toutes les religions du monde essaient de plaire à Dieu par toutes sortes d'œuvres, plus ou moins intéressantes, jusqu'à se faire souffrir pour essayer d'expier le péché du cœur de l'homme. Mais la Bible dit, non, non, arrêtez, c'est gratuit. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. Nous ne pouvons rien ajouter au plan du salut de Dieu. C'est lui qui a décidé de nous sauver. C'est lui qui a décidé comment nous sauver. C'est lui qui a décidé du moyen de notre salut. C'est Jésus-Christ et c'est parfait, c'est un don. Du côté de Dieu, il a fait sa part. Et en Romains 6, 23, encore une fois, c'est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » La vie éternelle est un don gratuit. Le jeune homme riche, lorsqu'il s'est présenté, devant Christ, il était riche, il était instruit, un chef de synagogue, mais il lui manquait le don suprême. Il est venu vers Jésus, il a dit « Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ? Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus a mis l'accent sur ce qui est l'empêcher de juste croire à un don gratuit. C'était l'amour de ses richesses. Et il est parti tout triste parce qu'il n'a pas eu la foi d'abandonner ses biens en regard de l'amour de Christ, qui est une richesse beaucoup plus importante que ses propres biens. Il préférait s'attacher à ses biens que s'attacher à Jésus-Christ. Et quand Dieu lui a demandé d'abandonner ses biens, il a demandé d'abandonner ce qui était son idole. Et aujourd'hui, l'obstacle au salut, c'est ce que nous voulons garder. c'est ce que nous ne voulons pas nous dépouiller. Mais pourtant, si nous regardons à Dieu et à ce don, nous voulons le recevoir. Du côté de l'homme, c'est par la foi. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors je sais que si vous interprétez ce passage et vous y réfléchissez, vous allez penser que le moyen de la foi, c'est aussi une grâce. Que quelqu'un ne peut pas être sauvé s'il n'a pas le don de la foi. Parce que la foi, dans les Écritures, c'est aussi un don de sa grâce. Et en même temps, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et la Bible nous tient responsable de croire. C'est ce qu'on appelle une antinomie. Deux lois qui semblent se contredire, qui sont vraies pourtant, existant en même temps. La loi de la foi, Dieu nous demande de croire, mais aussi la loi de la grâce, où Dieu nous donne la foi pour croire. Il y a d'un côté la part de l'homme et de l'autre côté la part de Dieu. Mais en même temps, si Dieu reste souverain dans son élection, il n'empêche pas moins que l'homme a une responsabilité de croire, certainement en regard de la révélation que Dieu lui donne. Par exemple, la Bible dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Concernant la création, l'homme a la preuve que Dieu existe. S'il ne croit pas à ce que Dieu dit déjà qui il est au travers de la création, il s'endurcit, alors il est sous le jugement de Dieu. Donc quelque part, Dieu se révèle à l'homme. La Bible dit qu'il se révèle à l'homme par la conscience, par la création, par la parole, par les circonstances, les épreuves et par le Saint-Esprit. Donc l'homme est à la fois responsable. Personnellement, je pense ici qu'on voit la part de l'homme, c'est la foi. Et du côté de l'homme, on peut dire que ce n'est pas par les œuvres, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La foi, la grâce, la main de la grâce, c'est saisir ce que Dieu donne. L'orgueil, c'est de fermer le poing pour ne pas recevoir de Dieu ce que Dieu donne gratuitement. Donc la foi, c'est une part de reconnaître nos limites, notre incapacité de nous sauver soi-même, pour dire « Oui Seigneur, sauve-moi ». Je pense à l'illustration suivante, j'ai un ami aujourd'hui médecin d'ailleurs, qui est un cher ami, dont les parents avaient un appartement ou une maison proche de Biarritz. Avec son frère, ils se baignaient souvent dans l'océan Atlantique, qui est connu parfois pour avoir des grandes vagues et parfois des lames de fond. Et comme c'était un très bon nageur, eh bien, de toute façon, il nageait souvent au même endroit. Et à un moment donné, il s'est aperçu qu'il y avait un courant qui était plus fort que lui. « Ah, je suis un bon nageur, je vais essayer. » Et il a essayé de remonter le courant. Il a essayé de se sauver par lui-même, jusqu'à ce qu'il découvre que là, il allait se noyer. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vu le maître nageur au loin, il a crié « Au secours, au secours, au secours !» Et le maître nageur est venu le délivrer avec une bouée. Les gens sont venus à son aide. Pourquoi ? Parce qu'il a réalisé, et c'était dans son témoignage, « Tout d'un coup, j'ai réalisé que le courant était plus fort que moi. » On peut croire être un bon nageur, et on peut un jour se noyer. On peut croire s'en tirer dans la vie, et un jour connaître des circonstances où on est au fond d'une citerne. Et c'est dur de remonter la pente glissante qui nous fait toujours retomber. Et des gens parfois vivent cela et Dieu les laisse vivre jusqu'à leur spirale de leur dépression plus profonde pour réaliser qu'il n'y a qu'un seul sauveur qui est Jésus-Christ. On ne peut pas se sauver soi-même. On ne peut pas se délivrer soi-même. On ne peut pas changer la couleur de sa peau. On ne peut pas changer ce que nous sommes. Or, si c'est par grâce, nous dit Romains 11:6, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement dit, l'œuvre n'est plus une œuvre. Vous connaissez le débat, le rapport entre l'Épître aux Romains et l'Épître de Jacques. L'Épître aux Romains dit clairement que le salut est par la foi, seul. Et Jacques nous dit que la preuve du salut, ce sont les œuvres. Ce n'est pas qu'on est sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi seule. Mais une fois qu'on est sauvé, on prouve sa foi par des œuvres préparées d'avance, c'est ce que nous regarderons dans un moment. Du côté de l'homme encore, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres, nous dit Galates, de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que la chair ne sera justifiée. Est-ce que quelqu'un peut enlever le bouquet de fleurs ici, 10 secondes, voilà, merci. Ça a l'air fou, je pensais qu'on a le verset par cœur en plus. Hein. Parce que, merci, la pleine lumière est faite. Merci Gérard. Peut-être on aurait pu mettre tout simplement... Ah, c'est ça, c'est pour ça, le vidéo un peu plus sur la gauche, là. On a le rétroprojecteur, c'est pour ça ce matin que c'est plus sur la droite, ici. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. C'est intrinsèque à nous. Nous avons la loi de la pesanteur sur nous, qui est la loi du péché. Nous désirons nous libérer de cela. Nous désirons faire des choses pour nous libérer de cela. Et nous faisons ce qu'on appelle la loi des œuvres. La loi nous dit ceci, cela. Nous essayons de le faire. Nous essayons de produire des œuvres pour nous justifier inconsciemment devant Dieu. Et nous n'arrivons pas. Ça s'appelle la loi des œuvres. Mais ce n'est pas suffisant devant Dieu. Parce qu'en fait, nul d'entre nous n'est capable de se soumettre à la loi, de l'accomplir. Seul Christ a accompli la loi et l'a accompli une fois pour toutes. Le double but du salut, voilà quelque chose qui est à retenir. C'est que Dieu nous sauve dans un but bien précis, oh, certainement pour nous faire échapper à l'enfer. Mais le côté positif, c'est pour se révéler à nous, révéler son amour et nous faire partager sa gloire. Une des choses dans l'éternité pour laquelle nous allons louer le Seigneur, c'est ceci, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous êtes sauvés ce matin ? Alors pourquoi ne pas louer le Seigneur ? Vous êtes vraiment sauvés ? Comment pourriez-vous ne pas louer le Seigneur pour sa richesse, sa grâce, sa bonté ? Vous étiez morts en route pour l'enfer. Si Dieu vous a sauvé, ça n'a pas été gratuit pour lui. Mais vous, vous pouvez le louer et le bénir. Et c'est ce que vous ferez dans l'éternité. Au siècle des siècles, on ne pourra que louer le Seigneur Jésus-Christ pour la richesse infinie de sa grâce. Aussi, parce que Dieu a un plan. J'aime bien l'idée, Dieu est un créateur. Et ce qu'il fait avec nous, c'est une nouvelle création. Il a fait de nous une nouvelle créature. Mais l'ensemble de ces nouvelles créatures, c'est sa nouvelle création. En Adam, il y a eu péché, il y a eu chute, il y a eu une création déchue et la terre a été maudite. Maintenant, en Christ, nous sommes devenus sa nouvelle création. Ici, le mot « ouvrage » dans le grec, ça signifie « chef-d'œuvre » ou « une œuvre d'art ». Dieu est un artiste. Vous avez remarqué comme c'est magnifique les cieux et la terre ? Dieu est un créateur. Et il se plaît de nous dire maintenant, vous mes enfants, vous êtes ma nouvelle création. Je suis en train d'accomplir un chef-d'œuvre dans votre vie. D'abord parce que je vous ai sauvés. Et maintenant je veux que vous me glorifiez par les bonnes œuvres préparées d'avance. La Bible dit en Matthieu qu'on est la lumière du monde et la sel de la terre, qu'on ne mette pas la lumière sous le boisseau, mais que la lumière soit mis en évidence afin que les hommes glorifient Dieu dans nos vies, qu'ils voient cette lumière. C'est ça le chef-d'œuvre de Dieu, c'est de laisser et de faire vivre Christ en nous. Comme disait l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que ceux qui nous entourent voient Christ vivre en nous ? Est-ce que nous représentons le chef-d'œuvre de Dieu ? Vous pouvez imaginer la plus grande œuvre sur terre que les hommes ont pu composer. Le plus grand peintre, le plus grand sculpteur, le plus grand architecte. Mais devant la transformation d'une vie, ce n'est rien. Voir une vie transformée par la puissance de Christ, ça donne toute la gloire à Jésus-Christ. C'est ça le chef-d'œuvre de Dieu sur cette terre. C'est son Église composée de pierres vivantes. Juste un dernier point qu'on trouve ici, au verset 9, au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Ça m'a frappé cela, quand j'ai réfléchi à ce message. « Il a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Ça veut dire que dans la vie du croyant, il n'y a pas de place pour la stérilité. Dieu nous a sauvés parce qu'il a fait une création en nous, une vie en nous qui doit porter maintenant du fruit, comme dit Jean chapitre 15. Porter du fruit, porter encore plus de fruits, porter beaucoup de fruits. et du fruit qui demeure. Est-ce que vraiment, frères et sœurs, nous glorifions Dieu par des œuvres que lui accomplit en nous? Ce n'est pas que nous devons accomplir des œuvres par nous-mêmes, mais nous devons laisser vivre le Christ en nous pour que lui vive au travers de nous, pour que lui fasse ses bonnes œuvres préparées d'avance, parce que nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Imaginez un peintre qui peint une peinture, et un enfant ou une maladresse quelconque de quelqu'un gâcherait sa peinture par, je ne sais pas, un pot de couleur versé sur la peinture. Quel gâchis, n'est-ce pas? Après peut-être 10 heures, 20 heures, 30 heures de travail. Mais nous faisons la même chose avec nos vies parfois, devant Dieu. Nous gâchons le chef-d'œuvre que Dieu veut accomplir en nous. Alors que Dieu est en train d'accomplir un chef-d'œuvre dans nos vies, parfois nous lui résistons. La Bible dit combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. On n'est pas sauvé par les œuvres et on ne marche pas pour des œuvres. On marche en Christ qui accomplit des œuvres en nous. C'est toute la différence. Le piège serait pour le croyant d'avoir commencé par la grâce et de vouloir vivre la vie chrétienne par les œuvres. Enfin, une conclusion qui s'impose tout d'abord, c'est un appel au salut. Y a-t-il eu un « mais » dans votre vie, un autrefois et maintenant? Un maintenant. Êtes-vous sauvé? Avez-vous l'assurance du pardon de vos péchés et de la vie éternelle comme un don gratuit? Et un appel à nous croyants, ceux qui connaissons le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que ma vie glorifie Dieu à cause de son salut? Est-ce que le salut que Christ a accompli en moi, maintenant, glorifie Dieu pour porter du fruit et ainsi apporter la lumière sur les nations? Prions, s'il vous plaît. Notre Père céleste, merci pour ce plan merveilleux de salut que tu as accompli en Christ. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, d'être venu sur la terre. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui n'a pas l'assurance du salut? Eh bien, je vous invite sans plus tarder à faire cette prière dans votre cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, que j'étais esclave dans mes pensées, dans mes volontés, dans ma chair, dans mon égoïsme et orgueil. Mais je veux que Dieu intervienne dans ma vie et je prie, Père, Dieu, que tu interviennes. Sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Entre en moi, délivre-moi. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui est dans ce cas ce matin et qui a besoin de prier cette prière toute simple, de dire « Seigneur, sauve-moi ». Alors faites-le maintenant. Et pour nous, les enfants de Dieu, humilions-nous devant Dieu. Venons prier à l'Église, venons jeûner à l'Église, étudions la parole, méditons la parole et glorifions Dieu pour son salut. Cette vie éternelle, gratuite, qu'il nous a donnée, aimons-le en retour, parce que lui nous a aimés en premier. Amen.